OK, donc nous sommes le 11 septembre 2011. C'est une date importante, un 10e anniversaire d'un événement qui a causé beaucoup de souffrance, qui a réveillé le monde. Et j'espère que cette cloche va rester encore longtemps dans le cœur des personnes afin de ne pas retourner dans ce qui était avant, ou bien de leur avoir encore une autre fois. C'est le genre de cloche qu'on ne veut pas entendre trop souvent. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous et nous sommes très heureux de vous recevoir, de nous recevoir ici dans ce nouvel espace que le Bouddha et tous les grands êtres qui nous sont précédés ont été très généreux pour mettre sur notre chemin. Et beaucoup d'autres bodhisattvas ont travaillé depuis plusieurs mois pour rendre cet espace aussi confortable qu'il est aujourd'hui pour nous, pour vous. Et comme vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous allons y travailler tranquillement. Avec votre support, votre aide, on y parviendra. Donc cette année 2011-2012, comme à chaque année, nous prenons un thème, un sutra, et nous l'apprenons ensemble. Cette année, nous allons étudier ensemble le Satipatthana, ou les quatre fondements, les quatre établissements de la pleine conscience. Et c'est un sutra qui est très important, c'est un sutra de base de pratique. Et c'est un sutra qui a été transmis directement du temps du Bouddha à travers de toutes ses générations. Et c'est aussi l'un des enseignements qui, selon notre maître, a été le moins altéré au cours de la transmission. Thay a travaillé très fort pour analyser, puis pour regarder tout ce qu'il pouvait avoir comme différentes versions pour les comparer. Et la version que nous avons et qui est dans ce livre, c'est la version Pali ou qui est la plus proche de l'enseignement original. Thay nous a également donné deux autres versions qui proviennent des autres baskets. Et il y a quelques petites différences, mais l'essence est là. 80-90% se retrouvent dans les différentes versions. Et selon Thay, lorsqu'on compare les versions et qu'on retrouve les points communs, il y a de grandes chances que ces points communs-là sont les mêmes que ceux qui ont été transmis originalement. Et les ajouts, je les ai regardés aussi, les ajouts ou les différences proviennent également. Il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut prendre de ces ajouts et de ces différences parce que les maîtres, quand ils enseignent, ils voient aussi comment ils peuvent, ou bien selon leur expérience d'enseignement, ils vont ajouter des choses qu'ils jugent importantes à ajouter dans l'enseignement original. Alors, ce que j'avais vu et retenu dans les deux versions que Thay a également données dans ce livre, c'est qu'il parle du chemin unique et le chemin unique, l'Ekayana, est quelque chose qui est un bon thème de méditation et j'ai médité souvent sur le thème de One Way parce que on sait que le Bouddha est une personne qui est très ouverte d'esprit et donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de. Alors, lorsqu'on entend le one way, c'est comme s'il n'y avait aucun autre chemin, alors que ce n'est pas ça l'intention du tout. Mais Ekayana, c'est la façon sûre d'y aller, d'y parvenir. Et ce que les maîtres ont interprété, c'est que cette voie, c'est la voie du noble chemin octuple que nous avons appris pendant toute l'année dernière. Alors l'année dernière, nous avons appris les quatre nobles vérités, et donc la vérité de la souffrance et la vérité de la voie pour transcender la souffrance. Et la voie pour transcender la souffrance, c'est le noble chemin octuple. Et le noble chemin octuple, selon ces versions ou la version chinoise du sutra, c'est aussi la façon ou la voie pour pouvoir parvenir au nirvana puis à l'éveil parfait. Alors donc, c'est vraiment une suite où l'année dernière, nous avons appris ensemble les quatre nobles vérités, le chemin octuple, et cette année, nous allons apprendre le comment. Alors, l'année dernière, c'était quoi? Alors, c'est la souffrance, c'est la voie pour transcender la souffrance. Et cette année, nous allons apprendre avec les quatre fondements de l'attention, de la pleine conscience, c'est comment pouvoir le faire, comment pouvoir pratiquer le chemin, le noble chemin octuple. Et c'est la façon qui nous... Et c'est cette façon, où c'est la base, où c'est l'enseignement qui est aussi utilisé par beaucoup ou bien par toutes les écoles de méditation. Alors, lorsque ce soit Vipassana, que ce soit Samatha méditation, que ce soit n'importe quelle école de méditation, c'est toujours basé sur les quatre fondements de l'attention. Alors, c'est vraiment un sutra très important, un sutra de base, et nous allons passer toute l'année ensemble. C'est la troisième fois que j'enseigne ce sutra. Et cette année, ce que j'avais décidé de faire, c'est de le changer par rapport aux deux autres fois où je l'ai fait, en m'attardant beaucoup plus à la pratique du corps et des sensations. Alors, pendant les 8 ou les 10 prochaines sessions que nous aurons ensemble, on va étudier les quatre fondements, mais avec une attention plus particulière au niveau du corps et des sensations. Et vous allez découvrir comment et pourquoi à la fin de l'année. Donc, dans l'introduction, j'ai aussi aimé lire les trois versions qu'il y a ici, parce qu'il y a des éléments qui ont été ajoutés que j'aime beaucoup. Parmi les éléments qui sont ajoutés, il y a les cinq obstacles qui sont bien décrits. Et les cinq obstacles à la pratique sont quoi? Il y a le premier obstacle, on parle... Et, peut-être avant d'y aller, il y a une autre chose, un autre passage aussi que j'ai beaucoup aimé et que vous avez entendu Pascal nous le lire ce matin. C'est la promesse ou bien l'encouragement du Bouddha à pratiquer les quatre établissements de l'attention. Et je vais vous le relire. Donc, tout bhikkhu ou bhikkhuni, je vais changer cette phrase. Je vais dire, toute personne qui pratique... le maintien dans les quatre établissements pendant 7 ans réalisera certainement l'un de ces deux fruits, atteindre dans cette vie même la compréhension suprême, c'est-à-dire l'état de bodhiité. On peut devenir un Bouddha en pratiquant les quatre établissements de la pleine conscience pendant 7 ans. Mais le Bouddha a peut-être pensé que 7 ans, c'est peut-être trop long et ça peut décourager le monde. Alors, c'est là qu'il dit, oh, peut-être pas besoin de 7 ans, ni de 6, ni de 5, ni de 4, ni de 3, ni de 1. Juste 1 an, ou non, une demi-année, ça devrait suffire. Et puis là, il se dit, oui, mais peut-être qu'une demi-année, c'est encore peut-être trop long pour certaines personnes trop impatientes. Alors, il dit 7 mois. 7, 6. Ah, c'est vrai. Pourquoi c'est 7 et non pas 8? En tout cas. Alors donc, il dit, c'est pas grave, 7 mois, vous pouvez juste le faire pendant 7 jours. Et puis... Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être essayer de le faire ensemble 7 jours pour voir ce que ça donne. OK. Alors donc, on va voir si à la sortie aujourd'hui, s'il y aura quelqu'un qui aura atteint la compréhension parfaite. Oui, alors je ne sais pas comment je fais. Vous savez, ce livre, je l'ai avec moi depuis 1998. Et il a été. Mais je n'ai pas encore été. Il faut croire que je n'ai pas bien pratiqué. Mais de toute façon, vous pouvez faire mieux que moi. Donc, à la fin de la journée, on pourra peut-être voir si vous avez atteint la compréhension parfaite dans ce monde. Et lorsque je lis ça, je suis très ému et parce que ça montre la compassion du Bouddha et sa grande compréhension aussi. Il sait que nous voulons faire des choses toujours plus vite. Il sait que on veut atteindre l'éveil tout de suite. Et donc pour nous encourager, pour pas nous décourager, il dit, faites-le, puis en sachant très bien que quoi que nous fassions, ou bien le peu que nous pouvons faire, c'est encore mieux que pas du tout, que rien du tout. Et lorsque on est dans une journée de pleine conscience et que je nous vois ici ensemble, on est une vingtaine aujourd'hui, je suis très heureux qu'on soit 20 à le faire ensemble. Et je pense aux 20 millions qu'il y a, ou bien aux 200 millions qui peut-être pourraient faire aussi la même chose et ne font pas. Alors, faisons ce que nous pouvons ensemble avec les moyens que nous avons. Il y a une chose qui est importante et que j'ai oublié de demander. Qui d'entre nous ici, pour qui c'est la première fois que vous nous connaissez? Vous êtes... Ah, ok, trois. Est-ce que je peux vous demander comment vous nous avez découvert ou comment vous nous avez su quoi, pour cette journée? Merci. C'est ça, il faut suivre. Suivre son père, c'est une bonne voie. Je vais demander à mes filles de communiquer avec vous. Et je vais parler à votre papa. Oui, vous? Okay. Je vais dire merci à John Kabat-Zinn encore. Je l'ai rencontré au mois de juin. Je vais. Ok, donc John Kabat-Zinn aussi a pratiqué selon les quatre établissements de la pleine conscience parce qu'il a pratiqué dans la tradition Theravada. Et la tradition Theravada utilise aussi les quatre établissements à la pleine conscience comme fondement de la pratique. Alors, on est dans le même chemin. Donc, Ekayana, la façon pour y parvenir, on peut la faire en une journée, puis on va essayer de la faire cette journée pour voir si ça marche ou non. Comment on peut savoir si ça marche ou non? Et c'est là que j'ai aimé aussi l'introduction des deux autres versions. C'est que ça montre non seulement ce que nous pouvons atteindre, et ce que nous pouvons atteindre, c'est surmonter, non, c'est purifier, surmonter l'anxiété et la peur, mettre fin à la douleur, à la détresse, au chagrin. Et ce sont toutes ces choses-là qu'on peut mettre ensemble avec ce que nous appelons la souffrance ou le ill will. Et donc, c'est la voie qui nous permet de pouvoir transcender ou bien de pouvoir régler ces choses-là qui sont identifiées un peu plus. Qui sont énumérés dans les versions qui ont suivi la première. Et pourquoi je pense que c'est important de nous le rappeler, c'est que des fois, quand on rentre dans une pratique, on peut oublier le pourquoi on est en train de le faire. Et donc, c'est important pour nous de nous dire, c'est qu'est-ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire, c'est pouvoir surmonter ces choses-là. Et aussi, ce qui est mentionné dans les introductions que j'aime et que je voulais apporter dans le courant de cette série, ce sont les obstacles, les cinq obstacles qui sont mentionnés. Alors, les cinq obstacles qui sont mentionnés sont le désir. Le premier obstacle, le désir sensuel. Et Et c'est considéré, en tout cas, je le vois, et je pense que ça doit être le cas de tout le monde. Le désir est perçu comme une source de souffrance. Pourquoi? Et le désir, dans ce contexte, à mon avis, c'est tout ce qui, c'est ce qu'on, c'est cette, c'est ce qui nous pousse à vouloir acquérir des satisfactions par les sens, que ce soit la vue, le toucher, les cinq sens. Alors, donc, c'est cette recherche du plaisir que peut procurer les sens. C'est ce désir d'acquérir quelque chose pour remplir ce que nous ne pouvons pas percevoir, qui manque à l'intérieur de nous. Et c'est une source de souffrance parce que les désirs ne peuvent jamais être comblés. Le mot désir veut toujours dire quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on recherche. Et aussitôt qu'on acquiert cette chose qui vers laquelle on aussitôt qu'on l'a, la satisfaction que cette chose-là peut procurer ne dure jamais. Et aussitôt que cette chose-là nous arrive, ce désir va se manifester sous d'autres formes. Et puis, alors donc, les désirs ne peuvent jamais être satisfaits parce que c'est toujours à recommencer. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette prémisse. Mais c'est comme ça que les désirs nous font souffrir. Parce qu'on est constamment en train d'attendre quelque chose, parce qu'on est toujours en train d'essayer de réaliser quelque chose, parce qu'on est toujours en train d'essayer de faire des choses afin de pouvoir atteindre cette chose-là que nous pensons ou bien que nous voulons pour nous, pour remplir quelque chose, pour une récompense dans le futur. Donc il y a cette notion où qui nous enlève notre liberté et notre capacité de pouvoir être avec ce qui est en train de se passer, parce que on est pris dans le futur, on est pris vers cette chose-là que nous voulons avoir pour nous procurer ce plaisir que nous recherchons, la récompense que nous recherchons, ou bien cette chose qui va combler notre vide, ou bien qui va remplir notre tristesse, alors c'est toujours vers le futur. Et nous savons que cette chose-là que nous allons avoir, comme toutes les choses que nous avons désirées déjà et que nous avons déjà acquises, ne nous satisfassent jamais très longtemps. Et aussitôt qu'on met la main sur l'objet de notre désir, il y a un autre désir ou bien d'autres désirs qui se manifestent et on est constamment en train de courir vers le futur pour des désirs. Et c'est pour ça que les sages disent que les désirs sont infinis, mais notre capacité de pouvoir le faire et d'y aller est très limitée. Et c'est pour ça qu'il y a cet débalancement et cette insatisfaction qui crée la souffrance. Alors, c'est identifier le désir, le regarder, et je ne pense pas qu'on soit, en tout cas, la personne qui aura atteint en sortant d'ici aujourd'hui, et qui pourra dire je n'ai plus de désir, ça serait un signe que oui, on a obtenu, ou bien on est arrivé à cet état de compréhension parfaite. Alors, lorsqu'on parle de ces obstacles comme le désir, c'est une façon pour nous de pouvoir mesurer notre degré de pratique ou le succès de notre pratique ou une indication que nous devons continuer de pratiquer demain encore. Alors, ce sont ces obstacles qui sont des indices du succès de nos pratiques, parce que la pratique que nous faisons, c'est pour pouvoir surmonter ou bien pour pouvoir annuler tous ces obstacles. Et donc les cinq obstacles et les trois poisons sont ce que nous l'essayons ce que nous voulons par cette pratique transcender ou bien anéantir ou bien et donc ça nous sert de repère, ça nous sert de mesure pour pouvoir évaluer l'efficacité ou le degré de pratique, notre degré de pratique. Alors, les cinq obstacles sont quels sont ces cinq obstacles? Là, je parle dans cette version, je ne sais pas c'est qui a fait la traduction, mais on parle de l'attachement et l'aversion. Attachement et désir semblent. Qu'est-ce que vous préférez comme terme? C'est quoi qui est cette source de souffrance? C'est quoi qui est cet obstacle? Est-ce que c'est l'attachement ou est-ce que c'est le désir? Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que votre femme vous attache? D'accord. La première, c'était quoi? Toujours vouloir ce qu'on n'a pas, ok. Mm-hmm. Et l'autre? Peur de perdre ce que l'on a, d'accord. Mm-hmm. Ok. Alors donc, on va utiliser les deux pour cette chose-là. Et c'est vrai qu'on peut voir aussi l'attachement comme le désir de ne pas perdre. Alors, donc, c'est aussi un désir de ne pas perdre. Et puis avec l'attachement ou bien avec le désir, ce que je vois aussi, c'est l'opposé de cela et c'est mentionné aussi dans cette, c'est l'aversion. Alors autant on peut désirer et puis autant on peut être poussé, c'est toujours des sources de souffrance. Et parce que c'est refuser ce qui est et ce qui est qu'on désire parce qu'on n'a pas ou qu'on repousse parce qu'on a. C'est autant de souffrance d'un côté comme de l'autre, dont l'aversion et le désir. C'est quoi le deuxième? Qu'est-ce que j'avais dit hier pour le deuxième, Raymond? Non, parce que hier je l'ai fait en anglais, puis je cherchais mes mots, parce que ce sont des mots que j'ai appris en vietnamien, et puis c'est beaucoup plus facile que... Alors, aujourd'hui, je les perds complètement. Je ne l'ai même plus en vietnamien. Alors donc, oui, il y a le désir. Et puis, l'autre obstacle que nous avons comme pratiquants aussi, c'est quand on s'ennuie, quand on s'endort. Et c'est une chose qui arrive très souvent et qui m'arrive aussi. Lorsqu'on s'assoit en méditation et on tombe endormi, lorsqu'on a une méditation... guidé et vous allez entendre ça cet après-midi quand on va avoir la relaxation totale et vous m'entendrez parce que alors donc c'est une et c'est pour ça que dans certaines traditions les traditions japonaises par exemple ils ont ce bâton et il y a toujours un qui se promène entre les personnes qui méditent, mais je ne l'ai jamais vu utiliser, ou bien comment l'utiliser, je ne sais pas s'il nous tape dessus, ou bien s'il... Mais je crois que c'est... Est-ce qu'il vous tape dessus? Est-ce que quelqu'un connaît? Oui? Ah oui? Paf! Ok. D'accord. Ça fait mal? Ah, d'accord, ok. Ok. Deux? Ok, d'accord. Oui, alors peut-être que je vais aller, tu me montreras où c'est pour que je puisse y aller. Puis... Non, je ne veux pas, j'aime dormir. Non. Alors donc, c'est ça. Et donc, dans notre tradition, Thaï est beaucoup plus doux. Il est très gentil. Et il dit, Si vous êtes fatigué et que vous avez envie de dormir, c'est mieux d'aller vous allonger dans votre lit, au moins vous dormirez plus confortablement que dormir assis. Ben, il me semble. Et je l'écoute, et lorsque je vous ai parlé qu'on pratique ici, on va faire attention à notre corps, pour moi c'est correct de dormir, et j'aime dormir quand je le peux, et c'est vrai que je préfère dormir dans mon lit que dormir sur mon coussin. Ce qui peut arriver par contre, c'est que si on veut méditer et qu'on a bien dormi, et qu'on a bien mangé, mais qu'on s'endort quand même sur notre coussin, ça peut être un indice que notre pratique ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que si on a assez dormi, si on n'est pas malade, si on est en bonne forme, si on a bien mangé, pas trop mangé, etc., on ne devrait pas avoir besoin de dormir lorsqu'on est assis. Et si on s'endort lorsqu'on est assis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce n'est pas le corps. C'est au niveau de l'esprit. Et ça peut être une réaction de l'esprit qui ne veut pas que nous pratiquions la méditation. Puis pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? C'est peut-être parce qu'on l'a forcé à faire des choses dans le passé. Et maintenant, il perçoit cela encore comme une oppression. Et sa réaction, c'est de dire, « Ah, tu veux t'asseoir? Bon, ben, good luck, do it yourself. Mais moi, je m'endors. » Et il y a beaucoup de pratiquants qui sont pris dans cet obstacle. Et lorsqu'on est pris dans cet obstacle, c'est difficile de pratiquer la méditation. Et donc, pratiquer pendant un jour, ça ne pourra pas faire si on passe cette journée à dormir. Right? Oui, l'agitation, c'en est une autre, des cinq. Oups, ok. Alors là, ça me fait... Merci beaucoup. Donc, toujours pour le sommeil, ça peut être aussi parce qu'on trouve ça plate. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus le fun lorsqu'on est dans une place avec des clones et puis des choses comme ça. Mais on sait aussi que ce ne sont pas ce genre de plaisirs qui peuvent durer longtemps ou bien que nous recherchons, parce que nous recherchons quelque chose d'autre que ces plaisirs-là, que nous savons aussi qu'ils sont impermanent et qu'on... Alors donc, quand nous revenons et que nous sommes assis, c'est pour nous trouver cette source de joie et de bonheur que nous pouvons acquérir à l'intérieur de nous sans aucune contribution, excitation de l'extérieur. Et si on s'ennuie, on peut aussi... Ce qui est conseillé lorsqu'on s'ennuie parce qu'on trouve la méditation plate, c'est de la rendre intéressante. Et comment est-ce qu'on peut la rendre intéressante? En s'établissant, en se donnant un programme de pratique. Alors, lorsque je suis assis en méditation, lorsque je pratique la méditation, je commence à m'asseoir, et comme on a été guidé ce matin, je fais attention à la position de mon corps, je m'assis, je fais attention au point de contact de mon corps, je respire, j'observe ma respiration, in, out, avec le... Et puis là, une fois que je suis bien établi, que je commence à être calme, là, je me donne un thème de méditation. Et le thème de méditation, ça dépend de ce que nous voulons faire. Et c'est là que la pratique de la méditation peut devenir intéressante ou peut être plate. Alors, ma pratique, c'est la pratique du bonheur, comme je l'ai toujours dit. Et j'utilise ces instants-là pour pouvoir cultiver mon propre bonheur. Et comment est-ce que je le fais? Il y a plein de choses que Thay nous a enseignées et que nous pouvons utiliser pour pouvoir alimenter, nous nourrir avec plein de choses qui sont belles. Comme par exemple, j'inspire, je me vois comme une fleur. Il y a peu de personnes qui peuvent me dire que je ressemble à une fleur, mais je peux me l'imaginer et là je suis content. Puis là je me tape sur le dos, yes. Mais... C'est une pratique qui nous garde éveillés, allumés, et qui aussi touche plein de choses que nous pouvons pratiquer pendant la méditation. Là, pendant ma méditation, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de regarder et de cultiver et de toucher, arroser, nourrir toutes ces graines de beauté et de bonté et de bonheur et de joie et de compassion et de paix que j'ai à l'intérieur de moi. Alors ce sont des thèmes de méditation que Thay nous donne. Et si vous voulez les voir ou bien les pratiquer, c'est dans le livre qui s'appelle Blooming of the Lotus. Un lotus s'épanouit. Alors il y a, je ne sais pas, 50 quelques exercices là-dedans. Et prenez-les, mais donnez-vous un programme avant. C'est-à-dire là, vous dites, ce mois-ci, ce que je veux pratiquer, c'est les 5 obstacles. C'est quoi les 5 obstacles? Ding, ding, ding. C'est quoi sur lequel je veux travailler? Et prendre les méditations qui peuvent aider à faire ce travail d'identification des obstacles. Et nous établir un programme et dire, OK, aujourd'hui, lorsque je vais m'asseoir, c'est sur ce thème que je vais pratiquer. Et c'est comme ça que nous pouvons rendre notre pratique de méditation intéressante, nourrissante et avoir moins de chances de s'endormir parce que c'est plate. Alors donc, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est qu'il faut être en bonne santé. En bonne santé dans le sens que si on a manqué de sommeil pendant 3 jours, c'est mieux d'aller se coucher que d'essayer de s'asseoir en méditation. Deuxième chose, c'est essayer de ne pas trop manger avant la session de méditation parce qu'on sait que lorsqu'on doit faire nos trucs de digestion, c'est moins facile de demeurer éveillé. Donc manger quelques heures avant pour pouvoir être plus apte à faire notre méditation. Avoir un programme de pratique, avoir un programme de pratique, c'est-à-dire nous nourrir avec cette joie de la méditation, ou bien nourrir notre joie par la méditation, nourrir la joie avec la méditation. Et c'est un, dans notre langage technique, on appelle cela la nourriture quotidienne du pratiquant. Si nous n'avons pas la joie de la pratique, notre pratique va mourir. Et nous devons nourrir ou alimenter cette joie pour que cette joie-là nous permette de continuer cette pratique. Et c'est très important comme pratiquant de se nourrir, de nourrir cette capacité de pratique en nous à chaque jour. Il y a beaucoup d'élèves qui aiment, ou bien beaucoup de pratiquants qui aiment John Kabat-Zinn, qui aiment mon maître Thich Nhat Hanh. Ils vont dans une retraite, ils sortent, waouh, j'ai découvert quelque chose. Et on les rencontre 3 mois après, complètement au même point où ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu soutenir, sustain, maintenir leur pratique. Et nous savons que c'est très très facile de tomber dans la non-pratique. Qu'est-ce que vous aimez? Voilà, c'est ça la réponse. Donc je pense qu'il n'y a aucune prescription qu'on peut donner. Il faut tester et puis il faut essayer. Mais les mesures qu'on peut faire, c'est toujours ça. Est-ce qu'on a du plaisir à le faire? Est-ce qu'on se sent mieux après une session de méditation? Est-ce qu'on se force à y aller? Ben, d'habitude, on se force un peu pour y aller. Mais est-ce qu'on s'en sort plus alerte, plus joyeux, j'ai fini. Alors, c'est nous seulement qui pouvons savoir qu'est-ce qui fait pour nous. Mais il y a une chose qui est sûre, il faut changer. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas que ça soit la même pratique, parce qu'on retombe dans ce... C'est pas seulement le sleepiness, c'est aussi le dullness. Alors, ça devient plate, ça devient une routine. Et la méditation, ce n'est pas une routine. La méditation doit être constamment renouvelée. Ça va? Donc, on a parlé du sommeil et de l'ennui, l'agitation. Ça, c'est l'agitation, c'est cet état qui ne nous laisse pas tranquille. C'est cet état où, aussitôt qu'on s'assit, on veut faire quelque chose d'autre. On s'assoit, puis hop, je ne sais pas si j'ai oublié d'éteindre le four. Là, on s'en va vers le four, on ferme le four, on retourne, on se rassoit. Oups, j'ai oublié. Ou bien on arrive à une destination, puis... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où est-ce qu'on s'en va? Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand le prochain McDonald's? Vous reconnaissez ça? Est-ce que vous avez demandé ça à votre père? Quand le prochain McDonald's? Non? Ben pourquoi tu ne l'as pas amené? Yes. Et donc cette agitation, ben c'est sûr que lorsqu'on a cet obstacle, l'agitation, c'est impossible de s'asseoir en méditation, donc on ne peut pas pratiquer. Alors comment est-ce qu'on peut pratiquer avec cela? Thay nous suggère de revenir à notre point. Comment tu appelles ça, M. Deng Deng, là, ça? Oui, c'est ça. C'est le point qui est tout en bas et qui est un autre centre de gravité. Et c'est un point d'acupuncture. Et c'est comment tu l'appelles? Le? Pas le centre. Oui, c'est ça. C'est ce... Sous le nombril. Ben, 3 cm, ça dépend. Si la personne a 8 pieds, c'est pas 3 cm. En yoga, vous faites ça. C'est quoi ce point? Comment vous l'appelez? Oui? Comment ça s'appelle? Ok, d'accord. Oui, Dan Dien, c'est en vietnamien, je le sais, mais... Ara, ça a l'air d'être en japonais. Oui. Donc, c'est Ara. Non, ok. Ara, c'est japonais parce que je reconnais le terme Arakiri. Alors, est-ce que vous connaissez ce mot, monsieur? Jing. Ok, Jing. Jing dans le Jing. Okay. De toute façon, ben. Vous allez nous le trouver? Vous ne pourrez pas dormir si vous ne le trouvez pas, je le sais, je vous connais. Vous nous le direz. Donc, ce point-là, c'est un point qui nous ancre et qui nous. Notre centre de gravité. Alors, si on retourne là, on retourne à notre point d'attache, on retourne à notre solidité, à notre stabilité, et c'est ça qui nous tient en place. Alors, l'agitation, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau des choses qui se passent. Et hier, j'avais parlé d'une image que Thay nous donne pour notre méditation. Quand on est agité, il nous dit, regardez un arbre qui est dans la tempête. Et lorsqu'il y a un arbre qui est dans la tempête, ben, ça sway, puis ça swing. Et les branches et les feuilles sont emportées. Et c'est un peu ça, comme ça que nous sommes lorsque nous sommes agités, c'est que nous faisons comme ces branches ou comme ces feuilles et nous ne sommes pas capables de nous arrêter. Alors au lieu de rester à ces places-là qui sont les feuilles et les branches, de retourner au tronc. Alors le tronc de l'arbre, il est beaucoup moins, il bouge beaucoup moins. Et quand on descend très très loin dans les racines, la racine est stable et là. Et donc c'est ce point-là que nous avons aussi à l'intérieur de nous. Et lorsque nous sommes agités ou pris dans toutes sortes de choses, et surtout lorsque nous sommes pris dans des émotions fortes, au lieu de rester au niveau des émotions, au lieu de rester au niveau de l'agitation, c'est retourner à ce point, s'ancrer et s'établir là. Alors ça, c'est la pratique que Thay nous enseigne à faire lorsqu'on est pris avec l'agitation. Ah, ok. En parlant de la pratique de la respiration et du retour au Dang Ding, une autre pratique aussi qui aide avec le sommeil, c'est la pratique de l'attention au nez. Alors si lorsqu'on respirons et que nous regardons notre ventre s'en aller, puis tout ça, puis qu'on reste là, ça calme l'agitation, mais ça aide le sommeil. Alors lorsqu'on se sent emporté par le sommeil ou par l'ennui, c'est de concentrer notre notre attention sur le point où l'air entre dans le nez. Et sentir cette fraîcheur et sentir le flot d'air, et ça nous permet de pouvoir éveiller peut-être un peu plus ou allumer un peu plus notre cerveau et nos pensées et nous réveiller. Alors ça, c'est une autre façon aussi qui peut nous aider dans la pratique du non-sommeil. Okay, avec l'agitation, les maîtres aussi identifient le remords. Alors, le remords, c'est une chose qui nous rend agités ou qui nous agite. Alors, je ne sais pas pourquoi ça dit ennui et remords. Mais un remords, c'est obviously, évidemment, une source d'agitation. Et ce que Thay nous conseille de faire avec l'agitation, c'est avec le remords, c'est d'essayer de faire la paix avec la source de notre mort, de notre regret, ou remords, regret qui va aussi avec le sens de culpabilité. Un complexe de culpabilité qui amène un remords, un regret, un remords, et comment, how to overcome, comment surmonter ou contourner. On surmonte ou on contourne, c'est quoi la plus facile? Je préfère contourner. C'est d'essayer de faire la paix, puis pour faire la paix, ben c'est la pratique que nous connaissons tous et que je ne sais pas combien nous pouvons. How successful we were in practicing it, beginning anew, peace treaty. Là, il y a plein de pratiques de paix que Thay nous a enseignées qui nous permet de pouvoir rétablir les relations, rétablir nos sensations, nos sentiments avec les personnes qui nous causent ou bien pour lesquelles nous avons du remords, les situations pour lesquelles nous avons du remords. Parce que nous savons que si nous sommes agités à cause du remords, tant que cette chose-là n'est pas réglée, c'est difficile de pouvoir pratiquer et de réussir la compréhension parfaite et l'état d'arahat. Bon, là, on a fait sommeil. Non, c'est pas sommeil, ennui. Et on a fait agitation. Ok, je ne trouve pas le cinquième, mais le doute. Le doute, je l'ai déjà identifié. Alors, donc, le doute. Et ici, je pense que ça parle non pas du doute lorsqu'on doute de quelqu'un ou lorsqu'on doute de la fidélité de quelqu'un. Alors oui, absolument, il y a ce genre de doute qui nous tient agités. Mais le doute qui est l'obstacle à la pratique, c'est le doute sur la pratique. Alors si nous n'avons pas confiance, si nous n'avons pas la foi dans la pratique, c'est très difficile de pouvoir pratiquer. Alors le doute que je vois ici, c'est le doute qui est le contraire de la foi. Et la foi qui fait partie des cinq énergies ou des cinq pouvoirs qui nous permettent de pouvoir pratiquer. Alors les cinq énergies, okay. Traduction. Donc ça commence par la foi. La première énergie ou le first power que ça prend, c'est cette énergie. Non, c'est la foi. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. La foi en quoi? Pas la foi en Bouddha. Mais la foi en notre propre capacité de pouvoir faire ce que le Bouddha a pu faire et nous a enseigné. La foi en notre capacité de pouvoir nous calmer et d'être ici et maintenant et heureux. La foi que cette pratique est une pratique qui peut nous permettre d'y parvenir. Alors si nous avons le moindre doute sur notre propre capacité, si nous avons un doute que cette chose-là peut être, c'est très difficile. Alors il faut commencer par avoir un peu de foi. Un peu, un petit peu. et continuellement travailler pour alimenter cette foi. Et comment est-ce qu'on la fait? Comment nous pouvons la faire? C'est de reconnaître les instants où nous sommes ce que nous voulons être. Si nous sommes dans une méditation et que nous nous sentons bien, il faut s'en souvenir. Et lorsqu'on n'est pas, ou lorsqu'on ne l'est pas, on se souvient. Ah, mais c'est quoi mon problème? Je peux l'être. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant pour que, pas que je le... Et chaque fois qu'on peut atteindre cette chose-là, cette joie ou cette paix, chaque fois que nous y sommes, ça nous permet de pouvoir agrandir ou bien de pouvoir nourrir et renforcer cette source et ce qu'on appelle, on appelle ça une graine. Alors c'est une graine de joie, c'est une graine de pleine conscience et on a plein de ce genre de graines. Et ce genre de graines-là, ils sont là et il nous suffit juste d'y aller pour pouvoir les toucher, les sortir, les nourrir, les renforcer pour notre propre bonheur. Et la pratique, c'est de les toucher afin de pouvoir les nourrir, afin qu'elles soient plus grandes, plus disponibles, plus accessibles, etc. Alors, et c'est ça qui nous donne la foi. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. On l'a fait une petite fois, on a eu ce petit éclair. Et il faut s'en souvenir pour se rappeler que moi aussi, je peux le faire. Parce que si on n'y croit pas, on est foutu. Si on ne sait pas, ou bien si on ne pense pas qu'on peut le faire, on tombe dans l'ennui, on tombe dans la distraction. Mais si on sait qu'on peut le faire, c'est la foi qui se self-nourishing, pardon, qui se renouvelle, oui, par nos propres succès de la pratique. Et plus nous avons de succès, plus cette foi-là augmente. Et à un moment donné, il n'y a plus aucun doute. Je sais que je peux le faire. Il ne tient qu'à moi pour le faire, mais je sais que je peux le faire. Et je sais aussi que cette pratique peut m'aider à le faire. Parce qu'avec la pratique, j'ai pu obtenir le calme que je recherchais. J'étais pris dans une situation emmerdante. Je me suis souvenu de respirer. Je suis revenu à ma respiration. Mon calme est revenu. Alors, je n'ai pas dit la phrase de trop. Je n'en suis pas venu aux actes. Et c'est pour ça que je n'ai pas été emporté par la police, etc. Alors, et ce sont ces petites choses qui arrivent lorsqu'on commence notre pratique, qui vont alimenter et qui vont faire grandir notre foi afin de nous donner cette énergie que nous avons besoin pour continuer notre pratique. Donc, le doute, le contraire de la foi, travailler la foi avec la pratique en s'alimentant. Et en s'alimentant, c'est pour ça que je reviens à la pratique de méditation que je vous avais mentionnée. Pratiquons à alimenter nos graines de joie, de paix, de compassion dans nos méditations journalières. Bon, le cinquième, c'est... Oui, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais là, on peut les mélanger. Yes. Comment on peut oublier ça, la haine et la colère? Ça, c'est un excellent signe. Je pense que j'approche de l'éveil, parce que là... Non, vous savez quoi? Lorsqu'on dit que il y a un autre sutra qui est très beau que j'ai entendu quand j'étais jeune, c'est que ils disent que il n'y a même pas de mots pour décrire cette chose-là. Alors comment cette chose-là peut exister dans cette place-là? Et puis nous avons le mot colère parce que nous avons la colère. Mais si nous oublions le mot colère, c'est qu'il n'y a plus de colère. Yes. Non, c'est pas vrai. Pour moi, c'est juste un trou de mémoire de vieux. Oui, colère, haine, ressentiment, absolument. Oui. Je ne sais pas si ressentiment, ça va avec l'aversion. Ouais. Oui. Oui, c'est tout l'ensemble. C'est la souffrance, l'ignorance. Alors, donc, colère et haine, je pense qu'on n'a pas besoin trop d'élaborer, on sait ce que c'est, trop bien. Et la colère et la haine, la pratique pour pouvoir la diminuer, c'est par la pratique de la compassion. On est en colère, on en veut, c'est juste parce qu'on n'a pas assez de compassion. Et Thay nous a enseigné avec un bel exemple. En tout cas, je pense que ça vient du Bouddha aussi. Mais il dit, si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez une cuillerée de sel là-dedans, l'eau devient imbuvable. Ben, je ne sais pas, à moins qu'on aime l'eau salée. Mais on met cette cuillère d'eau dans la rivière, l'eau est toujours. Ben, non, l'eau n'est pas buvable avant le sel, n'est pas plus buvable après. Mais c'est ça l'exemple qui a été donné dans les enseignements du Bouddha, la parabole. On met une cuillère de sel dans un verre d'eau, on ne peut plus boire le verre d'eau. On met cette cuillerée de sel dans une rivière, l'eau n'est pas affectée. Et de la même façon, notre cœur. Si notre cœur est comme un verre d'eau, juste un petit truc de sel. Ça ne marche plus. Alors, la pratique, c'est de pouvoir agrandir notre cœur pour devenir comme une rivière et ne pas rester comme un verre d'eau. Et comment est-ce qu'on pratique la compassion? Et c'est encore là, il y a beaucoup d'enseignements qui nous permettent de pouvoir améliorer notre pratique de compassion et d'amour. Et l'une des méditations qui est reconnue, c'est la méditation sur l'amour, Maitri Meditation, Metta Meditation. Et on commence cette méditation par soi. On se regarde et on voit que c'est nous qui méritons le plus notre amour et notre compassion. Et on se souhaite, etc. Alors, donc, ça, c'est une méditation qu'on pourrait faire éventuellement au cours de l'année ensemble. Alors, c'est une pratique où on commence l'observation de la compassion, la pratique de la compassion pour soi. Ensuite, ça pour les personnes que nous aimons, et après ça pour les personnes que nous aimons moins, et ensuite pour nos ennemis, pour pouvoir finir à aimer tout le monde. Et la pratique que nous pouvons. En anglais, ils disent love the unlovable. Alors, c'est ça, Thay dit que c'est très facile d'aimer les personnes qui sont gentilles et aimables, mais la pratique, ce n'est pas de les aimer. Ou bien juste de les aimer, parce que juste de les aimer, on tombe dans le non-bouddhisme parce qu'on fait de la discrimination. Alors que l'amour bouddhiste, c'est un amour sans discrimination, c'est-à-dire aimer même ceux qui ne sont pas aimables, détestables, mais plus encore, parce que c'est ceux-là qui ont le plus besoin de notre compassion et notre amour. Ceux qui sont aimables et tout ça, ils n'en ont pas besoin, ils sont bien. C'est ceux qui ne sont pas bien, qui sont détestables, qui ont le plus besoin de notre amour, etc. Alors donc, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui est détestable? C'est vrai, hein? Lorsque c'est détestable, ça veut dire qu'on peut. Ben, c'est à détester, c'est pas pour. En tout cas. Maitri Meditation, de quoi ça? Ici, c'est bien, on n'a pas d'horloge. Ok, merci. Toujours dans l'introduction, il y a aussi un autre indice qui peut nous aider dans notre pratique, c'est les trois poisons. Hier, j'ai cherché mes mots, la traduction. Là, est-ce que vous pouvez m'aider avec le français? Tam, avidité. Sang. Sang. Ok, colère et haine, donc c'est là. Okay. Si. Ignorance. C'est drôle là, que la colère se répète à de hautes places. Pourtant, je ne connais pas ça. Non, ils sont dans les cinq. C'est juste que là, j'ai mélangé l'ordre un peu juste pour m'amuser. Shake it up. Oui, vous aviez. Non, dites. La faim. Ah oui, c'est vrai. Ok, il y a une autre façon de le voir, c'est la faim. La faim, le sommeil, c'est ça, c'est les conditions physiques que nous devons avoir pour pouvoir pratiquer. Alors, il faut bien manger, pas trop. Il faut avoir assez de sommeil, il faut avoir une bonne santé, il faut pas en trop en avoir dans la tête pour ne pas être agité. Donc, c'est toutes des conditions qui sont aussi les obstacles là où il y a une relation. Absolument. Merci. Avidité, je pense que c'est avec les désirs. Ça va avec les désirs. Et l'ignorance, je pense que ça va avec tous, toutes. Et parce que les obstacles, les poisons proviennent, selon l'enseignement du Bouddha, de cette seule chose, l'ignorance. L'ignorance, vous savez, lorsque je regarde ce mot ignorance et que je me regarde, je trouve qu'on devrait changer le mot. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. On ne le sait que trop. Alors, on ne peut pas dire qu'on est ignorant, on le sait. Et pourtant, on reste dedans. Alors, c'est quoi? C'est quoi le mot qui doit décrire cette chose-là? Pardon? Non, c'est même pas le déni. Parce que déni, c'est on fait comme si on ne le savait pas. Pardon? Oui, on sait. On ne le fait pas, puis on se tape dessus quand on ne le fait pas, mais on continue de ne pas le faire ou on continue de le faire. Pardon? L'entêtement, l'inconscience, n'importe quoi, je l'appelle stupidité. On est-tu stupide? Non, pardon. Moi. Mais alors donc, c'est ça, c'est. Lorsqu'on ne le sait pas, il y a des excuses. Oh, désolé, je ne savais pas. Mais là, on le sait. Non seulement on le sait, on se le répète, on se tape dessus, tout ça, mais ça ne marche pas. Alors donc, c'est pour ça qu'on est ici, ensemble. Pour se le rappeler, pour s'entraider, pour se supporter, pour pouvoir le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on parle des trois joyaux, et c'est pour ça qu'on parle de la notion de communauté de pratique. Pour moi, pas seulement pour moi, mon maître nous enseigne que cette pratique est très difficile. Elle est simple, mais elle est très difficile seule. Nous ne pouvons pas pratiquer cette pratique si nous sommes seuls. Êtes-vous seul dans votre pratique? Non? C'est ça que ça vous prend, des compagnons de pratique. Et les compagnons de pratique, c'est ce que nous essayons de nous donner ici, de nous former afin de pouvoir avoir des amis de pratique pour pouvoir pratiquer ensemble. Et il y a aussi une autre notion dans la pratique que j'utilise, c'est dans notre vie quotidienne, on a des objectifs et on prend les moyens pour parvenir aux objectifs. Et ce qui est amusant dans cette chose-là, c'est que les moyens deviennent les objectifs et les objectifs sont en fait les moyens. Alors lorsqu'on travaille pour créer une communauté ou créer des ou fournir ou offrir des occasions, des opportunités, des instruments de pratique, c'est aussi la pratique. Et hier, nous avons eu un party ici, un beau party. Il n'y a pas eu de boisson, il y a eu quelques croissants, beaucoup de croissants, des gros croissants, on a eu du bon café, mais on a surtout eu des amis aimants. Et J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de bonheur. Et c'est cela que cette communauté, que cette sangha qu'on appelle me procure. Et c'est cela qui me donne aussi l'énergie pour pouvoir faire ce que je fais. Et ici n'est pas la seule place où j'enseigne. J'enseigne partout parce que j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que ça me permet de rencontrer plein d'amis, des amis grand A, grand M, grand I, pas petit chum, des grands amis de cœur avec qui je chemine et qui me donnent beaucoup de bonheur et de plaisir. Et lorsque je suis en compagnie de ces personnes-là, la pratique est tellement facile. Il n'y a rien à pratiquer. Parce que la pratique est là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer, de se confier, de se donner, de se laisser emporter. Et la pratique est tout à fait naturelle. La pratique est tellement naturelle qu'on ne peut même plus appeler cela une pratique, parce qu'il n'y a rien à pratiquer. Il y a une image que mon maître donne qui est très très belle. C'est l'image d'une goutte d'eau. Et c'est aussi le fruit que cette pratique peut nous procurer, le fruit du non-retour. Alors lorsque nous pratiquons les quatre entraînements, les quatre fondements de la pleine conscience, les deux fruits qui sont promis ou bien qui peuvent être atteints, c'est la compréhension parfaite, ce dont je n'aspire pas dans cette vie. Mais le deuxième fruit qui est possible avec cette pratique, c'est le fruit du non-retour. Et le fruit du non-retour, c'est l'état d'arahat. Et le fruit du non-retour, pour moi, selon ma définition, selon ma vision, ma perception actuelle, c'est cet état ou cette place où nous sommes sûrs que plus jamais nous allons sortir ou quitter la pratique. Et c'est ce que je nous souhaite. C'est une pratique, c'est une voie merveilleuse, c'est un très long chemin, mais c'est un chemin de joie. Il n'y a pas de fin à ce chemin. Et on ne sait pas où on est sur ce chemin. Il y a une direction à suivre et c'est la direction de la rivière. Et comme une goutte d'eau, il y a une seule façon d'y aller, c'est de se joindre à la rivière. Alors, lorsqu'on est une goutte d'eau et qu'on essaie de se rendre à l'océan, on peut essayer. On peut commencer par devenir une rosée, la rosée qui s'évapore, qui va se transporter avec les vents, qui va s'amalgamer avec d'autres gouttes, puis qui va tomber encore quelque part. Mais il y a beaucoup de chances que ça soit juste des transformations qui restent là. Peu de chances d'aller jusqu'à la rivière, jusqu'à l'océan. Mais une fois que cette goutte d'eau rentre dans un stream, un ruisseau, elle a beaucoup plus de chances de pouvoir se rendre à l'océan. Et ben naturellement, comme dans tous les cours d'eau, il y a des gouttes qui se perdent en cours de route. Il y a une partie d'eau qui s'évapore et qui va rejoindre les nuages. Et peut-être qu'un jour, elle va retomber dans une autre source et puis qu'elle va rejoindre une autre rivière. Et la rivière va peut-être nous rejoindre dans le même fleuve et puis on va encore peut-être se rencontrer quelque part là-bas dans l'océan. Et mon aspiration, mon objectif, c'est de pouvoir me garder dans un stream quelconque, sans me perdre sur la berge, sans m'évaporer quelque part. Et continuer de suivre le courant pour pouvoir éventuellement arriver à l'océan. Et voilà, je pense que ces cinq obstacles et les trois poisons ne sont pas des. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, ce n'est seulement qu'une prise de conscience entre nous, chacun de nous. Comment ces cinq obstacles sont dans notre vie, comment est-ce qu'ils se manifestent. Et comment les trois poisons nous empoisonnent, juste en prendre conscience, juste en prendre connaissance. Et au cours de l'année, avec les moyens dont nous allons nous donner, avec les quatre établissements, c'est voir comment nous pouvons utiliser les quatre établissements pour pouvoir les identifier à chaque fois qu'ils arrivent. Identifier, comment nous pouvons les embrasser, comment nous pouvons dealer avec, et éventuellement, peut-être vers la fin de l'année, on pourra les regarder de nouveau pour voir comment, avec la pratique au cours de l'année, nous avons notre perception, ou bien ces obstacles, ou bien ces poisons auront changé dans notre perception, dans comment ils nous affectent, et puis, etc. Alors, regardez-les pour voir où nous sommes, chacun de nous, et continuer de les regarder pour voir comment cette pratique peut nous aider à les surmonter, à les alléger, tout ça. Et dans 7 ans, ben, peut-être qu'on aura la compréhension parfaite. Je ne vous la promets pas pour aujourd'hui, mais dans 7 ans, il y a beaucoup de chance. Merci beaucoup.